tous. Bonjour Audrey.
Bonjour Inès, bonjour à nos auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, Radio B est en direct devant le monastère de Brou pour vivre le départ de cette 19e étape du Tour de France à Bourg-en-Bresse.
Au programme de l'émission, des interviews avec Christophe Niogré, adjoint au sport à la mairie de Bourg, l'office de tourisme de Bourg-en-Bresse, Catherine Billon, ancienne cycliste, et Gilles Bouvard, ancien participant du Tour. Mais aussi des reportages avec les cyclistes amatrices de Donnons des ailes au vélo, le coureur bressan Geoffrey Soupe et le speaker du Tour, François Belet.
Vous écoutez Radio B,
les bonnes ondes.
Le départ du Tour de France se fait à huis clos, aujourd'hui au monastère de Brou. La décision a été prise par la préfecture de l'Ain mardi dernier, au vu des chiffres du département, 69 cas détectés pour 100 000 habitants. Pas d'animation à Brou et le port de masque est obligatoire depuis 8h et jusqu'à 16h à Bourg-en-Bresse.
Vous pourrez quand même voir les coureurs sur le chemin, notamment sur le boulevard de Brou. Et les coureurs rejoindront ensuite la route de Jasseron. Mais en attendant le départ qui sera à 13h30, avec nous Christophe Niogré, adjoint au sport à Bourg-en-Bresse. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Paul Wagner, responsable de la communication à l'office de tourisme de Bourg-en-Bresse. Bonjour.
Bonjour.
Donc on commence avec vous, Christophe Niogré. Ce tour est vraiment particulier, un départ à huis clos ici à Brou, où les supporters peuvent se placer pour assister à cette étape.
Oui, effectivement, c'est quand même une belle journée. On vit une période particulière. Il y a quelques jours, la SO nous a demandé d'augmenter le périmètre de sécurité validé par la préfète. Vendredi, le département de l'Ain est passé en rouge. Effectivement, d'un côté, c'est une déception et de l'autre, bon, c'est comme ça, quoi. Il faut s'adapter, mais le Tour de France est là et la fête est belle quand même. Et il y aura quand même un beau public dans les différentes rues de la ville de Bourg.
Et donc, est-ce que vous pouvez préciser quel est le périmètre où on ne peut pas aller et quel est l'endroit où on peut aller voir les coureurs ?
Alors, pas précisément, mais c'est aux 200 mètres de périmètre autour de la ligne de départ.
Donc là, boulevard de Brou, on voit qu'il y a eu quelques personnes. On a vu les caravanes passer, les petits objets jetés qui font toujours l'animation. Pas grand monde quand même, parce que ça a dû refroidir certaines personnes. Est-ce que vous pensez que c'est quand même une journée qui peut être réussie ?
Bien sûr, c'est une belle journée qui est réussie, qui va être réussie. C'est quand même une belle vitrine pour l'ensemble du territoire. C'est quand même... aujourd'hui, on met en évidence notre patrimoine, l'église de Brou. Effectivement, c'est vrai qu'on vit dans une période particulière. On doit s'adapter et le prochain tour sera encore plus beau que cette année.
Donc ça veut dire que vous aimeriez... Bourg-en-Bresse, ville départ 2021
Écoutez, pourquoi pas, mais après, c'est au maire d'en décider. Mais effectivement, vous savez que Bourg-en-Bresse est une ville sportive. Le sport sur la ville de Bourg est très important. Effectivement, aujourd'hui, pour toutes les associations sportives, c'est un beau rendez-vous et j'espère qu'il y aura, entre guillemets, beaucoup de monde sur le bord des routes.
Donc l'annonce du huis clos a été donnée mardi soir. Vous avez décidé avec la mairie d'annuler toutes les animations autour du monastère, donc sauf l'émission notamment avec Radio B. La visite du monastère de Brou est maintenue aussi. Comment vous vous êtes réorganisé à seulement quelques jours du tour ?
Bon, c'est vrai que c'est un événement qui est préparé depuis plusieurs mois. Ça a été, entre guillemets, un coup de massue hein, pour tous les gens qui se sont investis. Mais je crois que dans la vie, il faut être adulte, il faut être responsable. Et il n'y aurait pas eu de cohérence à faire des animations autour de l'église de Brou et nos burgiens et burgiennes se trouvant à 200 mètres de là. Donc les animations étaient pour nos habitants et pas uniquement pour les invités de la caravane. Donc effectivement, je crois que c'est une décision prise dans le bon sens et une décision adulte.
Donc là, on a vu, il y a un faux départ à 13h30. Donc c'est quoi un faux départ ? Pourquoi un faux départ ?
Alors, l'organisation était un petit peu chamboulée. Effectivement, je dois donner le départ à 13h30 et tous les officiels doivent monter dans les voitures, ceux qui suivent, notamment le maire de Bourg, le Tour de France. Et je crois qu'il y aura un départ un petit peu plus éloigné.
13h45, donc route de Jasseron.
Exactement.
Donc cette année, un départ à huis clos, mais est-ce que vous pouvez quand même nous dire un peu la place que prend le vélo dans la ville de Bourg ? On voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont faites.
Je crois que la place du vélo est très importante au sein de la ville de Bourg. De plus en plus de pistes cyclables se créent. Hein. Et je crois que c'est un moyen doux pour se déplacer. Et j'encourage évidemment les gens qui travaillent sur la ville de Bourg de se déplacer en vélo. Et je crois qu'on peut, dans une ville comme la nôtre, comment allier et les véhicules et le vélo. Mais je pense qu'on est une ville qui a toute sa place pour le vélo.
Et au niveau plus compétiteur, avec certains clubs, vous pouvez en dire quelques mots, les différents clubs qu'on a dans le coin ?
Je crois qu'on a des clubs très importants sur la ville, notamment la BAC, hein, qui est un club professionnel, qui est en élite, avec un président qui est très impliqué au nom de Stéphane Marion. Et je crois qu'aussi, il porte haut les couleurs sur toute la France, de la ville et du territoire, et ça, c'est une très bonne chose.
Et donc ce Tour de France, pour la ville de Bourg, ça représente quoi en quelques mots ?
Bah écoutez, vu la redevance de la SO, je crois qu'au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Hein. Aujourd'hui, depuis hier, on parle de l'étape Bourg-en-Bresse-Champagnole et de partout Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse. Donc je crois que c'est un très bon coup de com et effectivement, c'est pas cher.
Et est-ce que vous êtes au courant du budget, combien ça coûte un tour, d'accueillir un tour, comment ça marche ?
Oui, bien sûr. Donc la redevance demandée par l'ASO est de l'ordre de 80 euros. Donc ça, c'est financé donc par CA3B, plus 15 à 20 000 euros de com pour CA3B. Et la ville de Bourg avait investi 30 000 euros dans les animations. Mais malheureusement, comme vous pouvez le savoir, ça a été annulé. Mais toutes les interventions d'associations et d'entreprises qui devaient se faire seront bien sûr dédommagées. Et c'est normal.
Donc ça vaut quand même le coup malgré les pertes au niveau des animations. Vous pensez qu'avec le rayonnement que ça donne, ce genre d'événement, c'est quand même bénéfique pour la ville ?
Plus que bénéfique. Et je pense que ça sera à refaire.
Bourg-en-Bresse avait accueilli le Tour en 2016, donc ville départ. Qu'est-ce qu'il y a eu comme retombée justement lors de cette étape qui s'était déroulée dans un climat qui n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui ?
Bah, je crois que l'Office du tourisme est mieux placé pour en parler que moi, mais c'est une étape importante pour nos commerces et notamment tout ce qui est le secteur de l'hôtellerie et restauration. Donc posez-leur la question et vous verrez, ils vous donneront la bonne réponse. Mais je crois qu'ils sont très satisfaits qu'un événement de ce type-là parte ou arrive à Bourg-en-Bresse. Et je crois que c'est une très bonne chose pour le commerce local.
Donc quelques petits mots sur ce que fait Jean-François Debat qui devait venir aujourd'hui, vous le remplacez au pied levé. Comment ça se passe du côté des élus ? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là ?
Bah, je crois que c'était une journée bien remplie pour Jean-François. Je suis là pour pallier à son emploi du temps chargé, mais je crois que si le Tour de France est arrivé ou est sur Bourg depuis quelques années, c'est grâce en partie à sa personne. Et je crois qu'il est très investi à ce niveau-là et je pense qu'on peut le remercier.
Donc là, il va prendre une voiture, c'est ça ?
Il prend une voiture avec le vice-président de l'Aglo à 13h10 et ils vont suivre l'étape, je pense, jusqu'à Champagnole. Bon, Champagnole, c'est encore un petit peu notre territoire.
Et vous allez faire quoi aujourd'hui ?
Alors très sincèrement, je baisse le drapeau pour donner le départ. Et après, comme j'ai une activité professionnelle de mon côté, je retournerai au travail.
Et c'est la première fois que vous faites ça, un départ du Tour de France ?
C'est la première fois puisque je viens d'être élu sur la ville de Bourg. Et effectivement, c'est la première fois. Je suis très honoré d'être là et d'être à votre micro, bien évidemment.
Mais merci Christophe Newgré. Je rappelle que vous êtes adjoint au sport à la mairie de Bourg-en-Bresse. Et donc on vous laisse partir, vous avez une journée bien chargée.
Merci.
Vous écoutez Radio B 90 FM. Les bonnes ondes.
Jean-Paul Wagner, vous êtes responsable de la communication à l'Office de tourisme de Bourg. Une centaine de chaînes diffusent ce Tour de France et les spectateurs aiment particulièrement découvrir les beaux paysages de France. Dans l'Ain, qu'est-ce qu'on va pouvoir admirer pour cette 19e étape ?
Alors pour commencer, on ne pourra pas faire l'impasse sur le monument qui accueille le départ du Tour de France et de la 19e étape aujourd'hui. Le monastère royal de Brou, qui se visite toute l'année et qui est également ouvert aujourd'hui. Pour faire la petite histoire, le monastère royal de Brou a été construit au XVIe siècle sur demande de Marguerite d'Autriche. C'est une véritable œuvre à l'amour. C'est un monument qui a été édifié suite au décès de son mari, duc de Savoie, Philibert le Beau. C'est un monument qui est classé au centre des monuments nationaux et c'est également un monument qui est classé, enfin qui a été répertorié monument préféré des Français en 2014 lors de la première édition. Et ce soir, petit clin d'œil, il y a l'élection justement du monument préféré édition 2020. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur ce magnifique édifice que je conseille à tout le monde de visiter. Le peloton ensuite passera par la commune de Jasseron, qui abrite un aérodrome, la Terre des Hommes, que vous pouvez visiter, que l'Office du Tourisme fait visiter en collaboration avec l'aérodrome. Une visite a été programmée la semaine dernière pour découvrir les coulisses de cet aérodrome, sur une thématique de l'aérodrome d'hier à aujourd'hui, avec des témoignages. C'est une visite qui a beaucoup plu, c'était une nouveauté. Ensuite, les coureurs auront la chance de découvrir un territoire naturel, le Revermont, un territoire qui nous tient à cœur. Le Revermont a la particularité d'être un terrain de jeu pour toutes les activités de pleine nature, activités outdoor. On y dénombre un certain nombre de sentiers, randonnées pédestres, circuits VTT. C'est également un point de départ pour citer le Mont Mion, un point de départ pour les vols en parapente. Le Revermont, c'est aussi une richesse culturelle qui abrite énormément de petits villages de charme, énormément de pépites. Donc les coureurs vont passer à proximité de Meillonnin, petit village réputé pour sa faïence, que certaines visites peuvent être organisées par l'Office du Tourisme également. Pour citer d'autres villages de charme, vous aurez également le village de Tréfort à proximité, regroupé aujourd'hui sur l'appellation Val-Revermont. Vous y trouverez également donc l'écomusée du Pays en Bresse sur Saint-Étienne-du-Bois, qui retrace toutes les richesses de la Bresse du 15e au 20e siècle et qui est en parallèle de cela également un relais d'information touristique. Vous trouverez également le musée du Revermont à Cuisia, qui retrace également toute la richesse du Revermont. Pour les plus gourmands, vous aurez d'excellentes tables également, pas faire de pub, mais sur Cuisia, vous avez une très belle table d'un chef que nous avons rencontré la semaine dernière sur le restaurant du Voyage des Sens, en l'occurrence.
Je confirme.
Excellent. et ensuite, le peloton passera par la commune de Chavannes-sur-Suran, qui est un petit village fortifié, où je conseille également les auditeurs de prendre le temps de visiter le centre-village avec ses petites ruelles, ses petites maisons en pierre qui vous permettent de vous évader à quelques kilomètres de Bourg. Pour les plus curieux également, parce que le Revermont c'est très riche, si vous passez un petit peu de l'autre côté du Revermont, si vous prenez le temps de faire 15-20 kilomètres de plus, vous pourrez profiter des gorges de l'Ain. Qui n'ont pas la réputation de leur grande sœur un peu plus au sud, mais qui est le détour. Aujourd'hui, vous avez notamment l'île Chambeau qui accueille une base de loisirs ouverte toute l'année et notamment en juillet-août. Vous avez le magnifique viaduc de Cisbolozon également qui se visite avec le barrage. Donc vous avez une immense richesse, le peloton va passer par ce territoire naturel et on aura la chance de pouvoir faire découvrir une partie de notre territoire.
Jean-Paul Wagner, avec l'annulation des animations et le huis clos pour le départ, vous avez eu de nombreux appels de touristes à l'Office de Tourisme ?
Oui et non, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les appels de touristes n'ont pas forcément été liés à l'annulation des animations.
Plus pour avoir des précisions sur.
Ah oui, alors elles se concentraient surtout. Alors les locaux ont beaucoup appelé pour tout ce qui est lié à la circulation, naturellement. Pour tout ce qui est des touristes, elles étaient notamment liées en partie donc un petit peu sur cette annulation, mais notamment sur tout ce qui va pouvoir se passer dans la journée au niveau du centre-ville, au niveau des restaurateurs, notamment tous les restaurateurs qui sont ouverts sur le boulevard de Brou, justement. Mais grosso modo, non, pas un afflux d'appels à l'Office du Tourisme lié à ces annulations d'animation.
Vous pouvez peut-être dire, pour ceux qui nous écoutent, globalement, après, tous les restaurateurs peuvent accueillir.
Les restaurateurs, je pense, se feront un plaisir d'accueillir tous les locaux et touristes toute la journée. Effectivement, il était programmé food truck et autres sur le parvis et les jardins de Broue aujourd'hui. Mais vous avez de très bonnes tables sur le boulevard de Broue et même au centre-ville de Bourg-en-Bresse hein, et même aux alentours sur d'autres communes. On en a cité sur Cuisia. Donc j'invite effectivement tous les auditeurs à se rendre chez le bon cuistot.
Donc on en a parlé un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça représente ce tour pour une ville comme Bourg-en-Bresse ?
C'est une exposition, c'est simplement une exposition magnifique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de pouvoir accueillir et de pouvoir être ville départ d'un événement comme le Tour de France, qui est la plus grande épreuve cycliste au monde. Vous avez plus de 180 pays qui diffusent cet événement. Pour nous, c'est une magnifique vitrine. Le monastère de Broue va pouvoir offrir des images aériennes, notamment d'une incroyable qualité. Donc, en termes de renommée, en termes de retombées, ça ne pourra être que bénéfique pour nous.
Même avec un huis clos
Même avec un huis clos, de toute façon, aujourd'hui, le contexte sanitaire est ce qu'il est. On doit s'adapter, très souvent s'adapter même en dernière minute, en urgence. C'est ce qui a été, je trouve, pour ma part, très bien fait par l'agglo et la ville de Bourg. Mais oui, je pense que même à huis clos, le Tour de France continue de passionner les foules. Donc je pense qu'en termes de retombées, on ne me fait pas trop de soucis à ce niveau-là.
Et au niveau des activités de l'Office de tourisme aujourd'hui, vous vous concentrez où ? Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, aujourd'hui, on a la présence de ce que l'on a baptisé l'OT mobile, donc ce petit camion ambulant, entre guillemets, qu'on voit juste derrière nous, qui a été lancé cet été, qui a parcouru toutes les routes, quasiment toutes les routes de notre territoire. L'idée étant d'aller à la rencontre, de ne plus être dans l'attente des touristes et locaux, mais d'aller à leur rencontre. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir présenter cet OT mobile sur le parvis du monastère de Broue. Donc avec nos deux conseillères, Anne et Daphne, qui se feront un plaisir d'informer tous les touristes et locaux sur tout ce que notre territoire peut offrir.
Et vous avez accueilli aussi quelques VIP aujourd'hui pour des visites ?
Alors aujourd'hui, effectivement, on a la chance, en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, de pouvoir accueillir un certain nombre de grands clients, grands comptes venant de Paris et de Suisse, mais également de Mâcon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont eu l'occasion hier de passer un peu de temps sur la ville de Cluny. Ils ont bénéficié hier des projections couleur d'amour sur le monastère de Broue, l'hôtel de ville et le théâtre. Et aujourd'hui, ils ont le droit à une très belle visite faite par l'administrateur Pierre Gilles, l'administrateur du monument du monastère de Broue. Donc une très belle visite de Broue et ensuite un déjeuner à la Brasserie Blanc. Donc plutôt un beau programme pour eux et un joli programme pour nous également.
Merci Jean-Paul Wagner.
Merci à vous.
Responsable de la communication à l'Office de tourisme de Bourg-en-Bresse. Nous allons maintenant replonger dans le passé, dans l'histoire du Tour de France, une des compétitions sportives les plus importantes du monde. Et il est même déjà centenaire. Et pour se mettre un peu dans l'ambiance, on retourne en 1950, un petit tour dans l'arrivée de la Grande Boucle au Parc des Princes.
L'arrivée est proche. Au Parc des Princes, l'arrivée des coureurs est annoncée. Des resquilleurs tentent de forcer les barrages. Les radioreporters ont pris place derrière leur micro et sans plus attendre commencent leurs émissions, tandis que Marinelli note ses impressions. Entouré de journalistes, le champion du monde, Rick Van Steenbergen, souligne la valeur de la performance de Kübler. Les voici. Le premier Bonaventure fait son entrée sur la piste, suivi de Bussons, Vinden et Loredi qui ont été rejoints par un groupe de 6. La foule acclame les coureurs et Baffert le vainqueur de l'étape. Un deuxième groupe fait son apparition. Et c'est le peloton de Kubler, Bobet, Ankers. L'enthousiasme est à son comble. Le nom de Kubler est sur toutes les bouches. L'armée des photographes est en place. Kubler connaît le plus grand triomphe de sa carrière. C'est la consécration totale, mais aussi pour Ferdi, une belle victoire sur lui-même. Le coureur impétueux a fait place au routier réfléchi, ce qui lui vaut de succéder à Fausto Coppi au palmarès de cette prodigieuse épreuve qu'est le Tour. Ockers fut une menace constante pour Kubler, sa seconde place est méritée. Kubler reçoit l'écharpe qui lui rappellera son Tour de France victorieux. Premier des Français a droit aux félicitations officielles. Tandis que Kubler pose auprès d'une charmante compatriote.
L'arrivée du Tour de France au Parc des Princes à Paris en 1950, de 1903 à 1967, l'arrivée du Tour de France se faisait dans un stade, le Parc des Princes à Paris.
Et avec nous, Rémi Rich, historien de la Bresse et de l'Ain, chroniqueur à Radio B et passionné de vélo. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Donc la première fois que le Tour de France a eu lieu, c'est 1903. Mais quand la ville de Bourg-en-Bresse a-t-elle découvert le Tour pour la première fois ?
Le 14 juillet 1905, le jour de la fête nationale, à l'occasion de l'étape de Besançon à Grenoble, de 327 km, il y avait un contrôle fixe installé au café des voyageurs rue Charles Robin. Donc les voyageurs devaient descendre de vélo, signer la feuille de route et repartir aussitôt. Les coureurs, les premiers à passer, c'est à 8h06 du matin et le dernier passe à 12h01.
Alors aujourd'hui, une centaine de chaînes de télé diffusent le Tour, de nombreux médias aussi. Mais à l'époque, Rémi, comment le public suivait le Tour de France ?
C'est grâce aux journaux L'Écho et puis aussi au Télégraphe. Dans chaque ville traversée au contrôle, donc il y avait un point de passage où l'organisateur envoyait chaque jour les informations. Donc le public intéressé pouvait donc suivre l'épreuve ainsi. Et ils annonçaient le passage plusieurs mois à l'avance pour que les clubs locaux puissent lancer une souscription pour offrir des primes aux premiers coureurs qui passent. Et puis, si les étapes sont séparées d'une journée, ce n'était pas seulement pour le confort des coureurs, c'était surtout pour permettre à l'information d'être diffusée et que le public des villes traversées puisse savoir où en était la compétition.
Donc en fait, les coureurs étaient payés grâce aux dons des habitants.
Ça complétait les primes des organisateurs. Effectivement, les coureurs comptaient là-dessus.
Même en Bresse, on était au courant que le Tour de France avait lieu ?
Bien sûr, les journaux locaux, le Courrier de l'Ain, le Journal de l'Ain donnaient les informations. Et je vous dis, donc, il y avait un point fixe d'informations. Donc pour 1905, c'est le Café des Voyageurs. Ensuite, ce sera le Café Voltaire, en haut de l'avenue Alsace-Lorraine et de la rue Voltaire.
Quel est le premier coureur de l'Ain à participer au Tour de France ?
On n'en a pas vraiment la certitude parce qu'il faut dépouiller toutes les archives. Mais pour moi, d'après mes recherches, ce serait un Suisse qui s'est installé à Bourg-en-Bresse, Jules Gillard. Il a participé en 1925 pour le compte d'une autre équipe. Et ensuite, il participe en 1926-27 à titre individuel parmi les touristes routiers.
Est-ce que ce coureur est allé jusqu'au bout du Tour de France ?
Donc c'est en 1928 qu'il y a aussi un second coureur local, Paul Fia, qui va disputer le Tour aussi en touriste routier, c'est-à-dire qu'il se débrouille pour se financer. C'est un peu du financement participatif à l'avance. Ils se font une bourse, ils se débrouillent pour leur hébergement et la suite. Et au cours de ces touristes routiers sont mêlés aux coureurs des marques, donc aux professionnels. Il y a toujours en fin de Tour une étape qui est menée à très vive allure et souvent les touristes routiers passent à travers, arrivent hors délai et sont éliminés. Et en 1928, Jules Gillard est éliminé, mais Paul Fia, qui est vraiment un costaud, parvient à suivre et à arriver dans les délais.
Alors qu'il était amateur.
Il était totalement indépendant, amateur, oui, c'était lui qui s'était financé son épreuve.
Sautons quelques étapes et passons à 1947. Rémi, vous nous avez dit que les coureurs étaient passés devant cette église de Brou.
Voilà, oui, c'est encore au cours de l'étape de Besançon à Lyon. Il y a un contrôle ravitaillement là devant l'église de Brou. C'est encore la période des restrictions et la caravane est encore peu importante. Et je me souviens qu'André Richard, un local qui a été très longtemps secrétaire du vélo club de Bourg-en-Bresse, m'a dit qu'il avait pris la roue des derniers passants. Donc on imagine mal aujourd'hui, avec la caravane, la police qui est faite tout autour, que des coureurs puissent prendre la roue des professionnels.
Et vous, Rémi Rich, quand avez-vous découvert le Tour de France ?
Comme beaucoup, on le suivait d'abord à la radio, hein, France Inter, qui donnait des reportages toutes les demi-heures, mais autrement physiquement, je suis allé le voir, une occasion d'aller à Luchon en 1969 pour la victoire. C'était encore un 14 juillet et c'était la victoire d'un national du porteur du maillot tricolore, André Delisle.
Qu'est-ce qui vous avait marqué ?
Ben leur puissance, hein, et puis aussi je les avais revus dans les mêmes années, il y avait un critérium à Bourg-en-Bresse, ce qui m'avait impressionné, on a toujours l'impression sur les photos qu'ils sont musculeux, imposants, en réalité qu'ils sont, comme on le voit maintenant à la télévision, ils sont très maigres, ils n'ont pas un gramme de graisse, ils sont très affûtés, et c'est vraiment un effort total.
Donc on n'en parle pas beaucoup sur ce tour, c'est les femmes cyclistes. Alors est-ce qu'elles ont participé déjà au Tour de France ?
Pas au Tour de France lui-même, mais on leur a proposé un Tour de France féminin en 1955. L'expérience avait été assez intéressante, mais elle n'a pas été poursuivie. C'est aussi un manque de sponsors. 1955, c'est les grandes années aussi. Et en 1957, le Bourg-en-Bresse accueille le championnat de France de féminin sur route, sur le circuit d'Evennes. Ensuite, on propose un tour féminin en même temps que les hommes. De 1984 à 1989, elles avaient un parcours plus court et elles arrivaient une heure avant les professionnels. Mais là, après, l'organisation a pris de telle ampleur qu'elle n'a pas voulu assumer la place des femmes. Personne n'a vraiment soutenu ce tour féminin et il a été abandonné, ce qui est bien dommage.
On est à Bourg-en-Bresse, c'est pas une région où il y a normalement énormément de vent, mais là, si vous entendez du vent, il est en train de nous balayer. Je ne sais pas si ce sont les coureurs qui sont en train de tous pédaler en même temps.
Pas encore. Ben merci Rémi Rich, historien et bénévole à Radio B. Et on va justement parler de la place des femmes dans le cyclisme et dans le Tour de France. Il y a pile un mois, les cyclistes amatrices ont fait le Tour de France comme les hommes pour promouvoir le cyclisme féminin. Le nom de ce projet, Donnons des ailes au vélo. Et nous sommes allés les rencontrer au départ de Bourg-en-Bresse. Reportage.
Pas de voiture publicitaire, pas de foule impatiente, l'ambiance est plutôt calme pour le début de cette 19e étape, identique à celle du Tour de France. Au départ, 13 amatrices de vélo qui font comme les hommes, Magali participe pour la première fois.
Il y a très peu de femmes qui ont l'idée peut-être, ou même l'envie de se mettre au vélo, parce que par manque de médiatisation, par manque de connaissances, l'idée c'est de montrer qu'on peut toutes faire du vélo, même à un petit niveau, et qu'on peut toutes y trouver beaucoup de plaisir.
Là, vous vous sentez comment pour cette nouvelle étape au départ de Bourg-en-Bresse ?
Assez serein finalement, puisqu'on a fait la dernière très grosse étape de montagne hier, qui était très très costaud, avec 5 cols, 2 hors catégorie, enfin voilà, c'était une très grosse étape. Donc aujourd'hui, c'est une étape qui devrait être plutôt plat, tout vallonné, et on y va avec beaucoup de sérénité et puis vraiment l'envie de, voilà, d'avancer, d'arriver aux Champs-Élysées en peu de temps.
Au programme aujourd'hui, 160 km sur une route partagée. Encadré par des motards, le peloton phare est rejoint par une trentaine d'Indinois de tout genre, de tous âges et de tout niveau. Liliane va suivre l'équipe sur son vélo électrique.
Je fais de la compétition avec Gianni Longo et Maria Canins, sauf que j'ai eu plein d'accidents et que maintenant je ne peux plus faire du vélo de route normal. Alors j'ai un vélo assistance électrique. Quand je faisais de la compétition, j'aurais rêvé de faire un truc comme ça. Et je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font. Et elles méritent aussi une couverture médiatique énorme, ce qu'elles n'ont pas.
Déjà 6 ans que ce Tour de France non officiel et féminin a lieu, Claire Floret a créé le projet Donnons des ailes au vélo avec un ami. Et depuis 2015, elle assiste à une évolution des mentalités.
La tendance est vraiment à la mixité, à la féminisation de ce peloton, parce qu'au départ, on avait beaucoup d'hommes qui venaient les années passées. Et plus ça va, plus ce sont des femmes qui se joignent à nous. Et là, on arrive à peu près à un 50-50 ou 40-60. Voilà, les femmes dépassent certaines barrières, se disent oui, si elles peuvent le faire, pourquoi pas nous réaliser une étape du tour. Donc ça, vraiment, ça permet de se dépasser. Sur les courses, par exemple, ça nous arrive de prendre le départ de certaines courses départementales avec les hommes. On sent qu'avant, ça posait un petit peu problème, on avait des petites réflexions. On en a de moins en moins. Voilà, donc vraiment, les mentalités changent, la place des femmes dans le vélo est en train d'être quelque chose de normal.
Une compétition féminine, le message est entendu par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Il envisage une grande boucle pour les femmes en 2022.
Allez, bonne journée, bon courage, au revoir.
Catherine Billon est notre invitée, bonjour.
Bonjour.
Vous allez réagir dans quelques instants à cette initiative. Mais d'abord, notre bénévole fan de cyclisme à la Rude va vous présenter à la Rude. Bonjour.
Bonjour. Alors, le sport cycliste n'est pas qu'une affaire d'hommes. Jeannie Longo, au palmarès le plus fourni du sport français, en est la preuve. Dans l'Ain, nous avons une compétitrice qui a effectué une bien belle carrière, couronnée par des titres de championne régionale. Tout juste descendue du vélo, elle s'est investie pleinement pour servir son sport, en montant une section sportive dans un collège, puis dans un lycée, avant de créer un club dans le Haut-Bugey, Ambition Cyclisme Féminin. Depuis de longues années, elle œuvre pour le développement du cyclisme féminin en Rhône-Alpes. La Fédération Française de Cyclisme l'a d'ailleurs récompensée en lui octroyant le trophée Julien de Cadet, attribué à de jeunes dirigeants très actifs. Cathy Billon, c'est d'elle qu'il s'agit, est aujourd'hui au micro de Radio B.
Catherine Billon, vous pensez quoi de l'initiative qu'on vient d'entendre de Donnons des ailes au vélo ?
C'est un projet monumental pour connaître un petit peu Claire et Mathieu qui en sont à l'initiative. Ça leur demande un boulot de fou, clairement, il faut le dire. Et moi je suis vraiment contente de voir l'évolution justement de ce projet entre les premières années où effectivement c'était très peu médiatisé, enfin on n'entendait pas parler et tout ça. Et là, ça fait effectivement 2 ou 3 ans où ça a vraiment pris une ampleur énorme. Et puis surtout, je crois qu'ils sont arrivés à leur fin avec enfin le retour annoncé pour l'an prochain par Christian Prudhomme d'un Tour de France féminin. Alors, d'après les échos que j'ai eus, ce ne serait pas pendant le Tour des Hommes, parce que forcément, comme l'a expliqué Rémi Riche tout à l'heure, le Tour étant devenu une machinerie vraiment énorme qui fait venir beaucoup de monde autour de la course. Là, les filles partiraient juste après. En fait, il y aurait une idée de passage de relais sur l'arrivée à Paris, entre l'arrivée des hommes et le départ du Tour des filles, ouais.
Ce Tour de France pour les femmes, vous y êtes favorable ? Ça fait longtemps que vous militez pour ça aussi ?
Ouais, moi c'est pareil, j'ai connu on va dire la grande boucle féminine, donc le faux entre guillemets Tour de France des filles, où là pareil malheureusement il n'y avait pas l'attrait médiatique qui aurait été mérité, parce que les filles elles pédalent comme les hommes, elles souffrent sur leur vélo autant que les hommes, et du coup c'était un petit peu dommage, ça restait vraiment un petit peu trop confiné, c'est le mot à la mode on va dire, mais oui, voilà.
Catherine Billon, pourquoi les femmes ont été mises de côté aussi longtemps et encore aujourd'hui dans le cyclisme ?
Je sais pas. Après, est-ce que ça tient peut-être plus à la place de la femme tout court dans la société et dans le sport en général ? Après, effectivement, ça demande, le faire du vélo, ça demande aussi pas mal de temps en termes d'entraînement, de choses comme ça. Donc après, c'est des choix de vie aussi à faire entre une vie de sportive, une vie familiale, une vie professionnelle. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que le manque de médias, derrière, il y a aussi un manque de partenaires. Qui dit manque de partenaires, derrière, les filles ne peuvent pas vivre tout simplement de leur sport. Et c'est aussi ça qui fait que ça manque.
Et vous aussi, vous avez été cycliste. Comment vous le viviez à ce moment-là ? Est-ce qu'il y avait du machisme un peu dans ce milieu ? Comment ça se passait ?
Alors, moi, j'ai pas vraiment connu ça. Après, clairement, quand surtout dans les jeunes catégories où les filles courent régulièrement avec les garçons, quand on est en école de vélo, qu'on est une fille et qu'on gagne devant les garçons ne sont pas contents, c'est clair. Après, plus tard, ça arrive beaucoup plus rarement. Mais voilà, après, parler de machisme, non, au contraire, plus on avance dans l'âge et plus les garçons se montrent plutôt impressionnés de voir que les filles sont capables d'être au départ et de tenir leur rang quasiment aussi bien qu'eux, quoi.
Catherine Billot, comment vous battez pour, pour leur rendre la place qu'elles méritent ?
Alors, nous, essentiellement, à Ambition Cyclisme Féminin, ça passe par des organisations d'épreuves. On a organisé une manche de Coupe de France pendant plus d'une dizaine d'années à Isère-Nord, là, sur le Haut-Bugey. Voilà, après, ça passe aussi par l'accueil des filles dans les clubs. Pas leur dire, bah ouais, c'est bien, t'as pris une licence, mais maintenant, débrouille-toi. C'est une fois qu'elles sont dans les clubs, les accompagner. Et les accompagner, j'ai envie de dire, réellement sur le terrain, alors que ce soit par des entraînements adaptés ou bah voilà, les bons conseils aussi, leur dire cette course-là, oui, là tu peux aller courir avec les gars, là non, peut-être pas, parce qu'effectivement, que ce soit en termes de dénivelé ou parce que bah voilà, l'athlète débute ou n'a pas le niveau, ce sera peut-être pas forcément un super choix d'y aller. Donc voilà, c'est surtout de l'accompagnement, je pense, maintenant qu'il faut faire.
Il y a une volonté des clubs d'accompagner justement les filles, les femmes, dans leur pratique ?
Alors, on le retrouve de plus en plus, mais ça vient, comme on le disait, un petit peu de vraiment depuis ces 4-5 dernières années où effectivement le sport féminin dans sa globalité se développe. Alors, ça passe aussi par les résultats des sports co, hein, que ce soit au hand, au foot, etc. Où je pense les femmes se disent, bah, ouais, on peut faire du sport nous aussi. Et derrière, les clubs se sont bien rendus compte aussi que bah, avoir des femmes dans les clubs, c'est bien. Et pas que pour s'occuper des petits, en gros pour faire nourrice pendant les entraînements, on va dire. C'est méchant ce que je dis, mais c'est aussi une réalité. Et voilà, donc ouais, non, maintenant les femmes prennent une vraie place au sein des clubs.
Et est-ce que vous allez les chercher, les filles, pour qu'elles viennent dans les clubs de cyclisme, ou est-ce que c'est à elles de faire la démarche, ou est-ce que vous faites peut-être des initiations, des choses comme ça ?
Alors, nous, personnellement, non, on ne va pas forcément les chercher. Après, le vélo n'est pas forcément le premier sport vers lequel une femme va se diriger, je pense. D'une part, pour le côté sécurité, on le voit malheureusement encore trop souvent, des accidents voilà, sur la route, les vélos renversés, ça arrive régulièrement, malheureusement. Après, voilà, nous, on est ouvert à qui le veut et il n'y a pas de souci là-dessus, quoi.
Est-ce que vous pouvez peut-être donner envie, peut-être à des auditrices qui hésitent à vous rejoindre ?
Oui, bah après, encore une fois, le vélo, c'est ce qu'il y a de bien avec le vélo, c'est que ça peut être à la fois un sport loisir qui va de la balade ou à la compétition, et puis aussi qui se décline et bah voilà, sous différentes formes, entre le VTT, le BMX, la route, la piste, enfin, il y a vraiment multidiscipline, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le vélo.
On va parler un peu de la fédération de cyclisme. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en chiffres combien de filles sont adhérentes, quelles sont leurs performances, s'il y a des personnes qui se démarquent ?
Ouais, alors au sein de la fédération, les filles représentent un petit peu plus de 10% des licenciés. Après, en France, on a des fers de lance, notamment grâce à Pauline Ferrand-Prévot, qui est championne du monde de VTT, qui, il y a quelques années en arrière, avait réussi un peu l'exploit d'être à la fois championne du monde en VTT, sur route et en cyclocross également. Donc voilà, derrière, on a des jeunes qui poussent, avec des Jadiel, des Juliette Labou, qui a fini meilleure jeune sur le Giro féminin l'an dernier, donc le Tour d'Italie féminin. Donc voilà, c'est franchement des nouvelles générations. Et puis voilà, je crois qu'on peut aussi compter sur une Audrey Cordon, qui est l'actuelle championne de France et qui milite réellement pour le développement du cyclisme féminin. Et du coup, elle emmène pas mal de monde dans son sillage. Ouais.
Vous venez de parler donc du Giro féminin, donc le Tour d'Italie. Comment ça se passe pour le cyclisme féminin dans les autres pays, notamment les pays européens ?
Alors, de ce que j'en connais sur l'Italie, c'est, enfin, le vélo est déjà plus développé que chez nous en France. Il y a plus de licenciés. Et après, là où sur une course régionale en France, un peloton, une course régionale féminine, j'entends, vous allez vous retrouver, si vous avez beaucoup de chance, avec une cinquantaine de partantes, vous faites la même chose en Italie et vous allez être 120. Donc voilà, après le pourquoi du comment, ça, j'ai pas les explications.
Est-ce que vous pouvez finir avec peut-être quelques dates de compétition féminine qui vont avoir lieu de cyclisme? Je ne sais pas si c'est prévu.
Là, il y a les championnats du monde qui arrivent très prochainement, donc à Imola en Italie. Sur la fin de la saison, là, si, il y aura le premier Paris-Roubaix féminin aussi qui va avoir lieu. Alors, j'ai pas retenu la date par contre, mais voilà, dans les grands événements, c'est surtout ça.
C'est
voilà.
un bon signe, un Paris-Roubaix féminin.
Oui. Voilà, c'est le bon signe, on va dire, c'est que les épreuves international homme se décline maintenant en version féminine, et puis surtout au niveau français notamment, il y a maintenant l'obligation pour les équipes World Tour homme d'avoir le pendant féminin, donc c'est pour ça que voilà, on voit la FDJ qui a son pendant avec la FDJ féminine, Arkea Samsic qui a aussi maintenant son équipe dames. Voilà, je sais que AG2R a le même projet pour 2022, donc voilà, c'est bon signe, ça se développe. Il faut être patient, mais ça va se faire.
Merci Catherine Billon.
Radio B, les bonnes ondes.
Radio B est toujours en direct du Tour de France en face du Monastère Royal de Brou. Il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez l'entendre. L'ambiance monte un peu, des klaxons, des voitures qui passent, des supporters avec leurs drapeaux. Le départ se fait à huis clos, mais boulevard de Brou, il y a quand même de l'ambiance. En attendant le départ à 13h30, ça se rapproche, nous allons écouter un autre monument du Tour, un Bressan. Sa voix résonne au stade Verchères, c'est François Bellet. Nous l'avons interviewé avant son départ pour la Grande Boucle, il est speaker aux arrivées. On écoute François Bellet, il nous explique sa journée sur cette étape.
Moi, je serai sur la ligne d'arrivée dans le Jura, chez nos amis jurassiens de Champagnole. Donc, en général, on se couche le plus tôt possible, entre minuit et 1h au plus tard. On se lève le plus tard possible, entre 7h et 8h le matin. Donc, je serai dans la voiture. Direction Champagnole, à 11h du matin, a priori, on est présent sur le site. On repère un peu les lieux, on récupère la presse du jour, on rencontre les gens qu'on doit voir dans le courant de la journée, les gens des villes, des départements, etc. On met en place un peu notre stratégie de communication sur les territoires traversés. Et puis moi, je prends le micro en général à 12h45, 13h à peu près, l'heure où l'étape part très souvent, ou alors elle vient de partir peu de temps avant. Et là, on commence à faire le commentaire. On a bien sûr les écrans, on a les ordis, on a les écarts, on a Radio Tour dans les oreilles qui nous indique tout ce qui se passe sur le Tour de France. Et c'est vrai qu'on est en instantané au courant de tout ce qui se passe, parfois même avant les gens de la télé finalement. Et puis là, tout l'après-midi, on joue, quoi. On accueille les gens de la caravane, on accueille les VIP, on fait des interviews. Habituellement, on fait quelques jeux, on fait gagner des maillots, des choses comme ça. Avec les partenaires. Et voilà, on tient informé les gens de ce qui se passe. On va les voir habituellement aussi, pour leur demander comment ça se passe, etc., etc. On essaye d'être présent physiquement et de faire monter un peu à l'attention pour qu'à 17h, 17h30, quand l'étape arrive, on va dire que l'ambiance soit à son paroxysme, quoi, que les gens soient vraiment chaud bouillant, comme on dit, pour accueillir les coureurs. Après l'arrivée d'étape, moi, je fonce en direction du protocole, le podium protocolaire. Donc, il y aura un hôte et une hôtesse qui seront distanciés du coureur. Il y aura une personnalité du côté des politiques, une personnalité du côté des partenaires, alors qu'habituellement on a 5 personnes d'un côté et 5 de l'autre, qui a des poignées de main, qui a des bises, qui a des effusions, cette année évidemment hors de question, coureurs masqués, toutes les personnes masquées, et c'est un membre de l'équipe du coureur qui sera mis à l'honneur sur le podium protocolaire, qui remettra le maillot ou le trophée donc à celui qui montera sur le podium pour le recevoir. Voilà, donc c'est une vie, on va dire, elle est de tournée en quelque sorte, hein. Pendant un mois on est en tournée, voilà, c'est pas rock'n'roll, c'est cycliste, mais ça ressemble un peu à tout ça, et puis c'est un vrai bonheur, quoi, parce qu'encore une fois, partout où on va, on est dans un 14 juillet permanent parce que c'est la fête, quoi. Alors surtout en juillet parce que les gens sont en vacances. Là, en septembre, ils ont repris le boulot. On verra bien.
Justement, pour ce public, donc là, pas d'autographe, on peut pas trop s'approcher des cyclistes. Il faudra probablement tous porter le masque. Est-ce que vous redoutez cette ambiance un peu moins festive ?
Ouais, un petit peu quand même, parce que c'est vrai que ce qui fait la particularité du vélo par rapport à d'autres sports pro, parce que c'est un sport pro évidemment, c'est quand même un sport, on va dire, d'approche facile des coureurs. Autant dans le milieu du foot professionnel, par exemple, c'est devenu quasiment impossible, pour un spectateur, à moins d'avoir un coup de chance inouï, d'être à côté du tunnel où les coureurs, où les joueurs entrent ou sortent, voilà, d'avoir un contact direct, quoi. Là, les coureurs sont très approchables quand même. Là, cette année, ils le seront moins. J'ose espérer que ça ne deviendra pas la norme après et qu'on reviendra quand même à quelques effusions, à quelques contacts plus directs, plus en bugne à bugne, comme on dit, dans les années à venir. J'espère que cette pandémie s'arrêtera. Parce que l'essence même du vélo, c'est un peu comme la course à pied, hein. Ce sont des sports de masse quand même, où on a une vraie proximité, on a une vraie possibilité d'échange avec les coureurs. Et ça, si on le perd, c'est dommage, quoi. Donc j'espère qu'on pourra quand même aller de loin voir les coureurs et puis que dès l'an prochain, si ce virus a enfin décidé de nous foutre la paix ou si on a enfin le bon vaccin pour s'en débarrasser, on pourra retrouver cette ambiance. Parce que la fête, elle est liée à ça. La fête, c'est parce qu'il y a le tourisme, il y a le public, il y a des champions qui sont des héros. On aime ou on n'aime pas le vélo, hein, mais je vous garantis que ces gens-là, ils sont hyper courageux, quoi. Ils se cassent la figure, ils remontent sur le vélo, il y en a qui finissent l'étape avec la clavicule pétée ou avec une épaule en vrac. Enfin, c'est hallucinant, ils ont un courage incroyable. Et il y a une espèce de dramaturgie, quoi. Et donc, c'est une comédie dramatique aussi, le Tour de France, où le public a toute sa place et les échanges ont toute leur place entre le public et les coureurs et inversement. Les coureurs ont besoin du public, ça c'est sûr. Le public a besoin des coureurs aussi. Donc, ouais, j'espère que ce sera vraiment une parenthèse cette année. Mais ça va être compliqué pour le public d'approcher les coureurs, c'est une certitude. Mais même pour nous, hein, même pour nous, les acteurs du Tour, on aura du mal. Je pense qu'on va être distanciés au niveau des étages dans les hôtels. Enfin, voilà, on va être un peu chacun chez nous, quoi. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ce sera une tournée un peu particulière.
Donc vous animez ce tour depuis 2003 déjà. Si vous voulez bien, j'aimerais que vous racontiez une anecdote, peut-être un de vos meilleurs souvenirs.
Bah, le souvenir le plus marquant, c'est 2003, le tour du centenaire, mon premier Tour de France. J'arrive au pied de la Tour Eiffel, il y avait un contre-la-montre au départ, Paris-Paris, et j'étais au pied de la Tour Eiffel et j'ouvre le micro et je m'entends à perte d'oreille, et je dis ça y est, tu y es, quoi. Ça, c'était très impressionnant. Il y a aussi le souvenir de rencontres incroyables. Moi, le petit gars de Bourg-en-Bresse, le petit Bressan, qui est l'occasion de voir Arnold Schwarzenegger, d'échanger un verre avec Cameron Diaz, Tom Cruise, avec Will Smith, avec Ben Stiller, avec Michael Douglas, voilà, avec des gens comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais c'est vrai que c'est ça qui est incroyable, c'est les rencontres qu'on peut faire aussi au quotidien. Alors il y a les gens connus puis les gens pas connus, on rencontre des publics incroyables, on a parfois la même tête au même endroit sur la ligne d'arrivée du premier au dernier jour. Il y a des gens qui font tout le Tour de France, qui orientent leurs vacances en fonction du Tour de France et qu'on voit du premier au dernier jour, ils sont toujours au même emplacement. Alors ceux-là, bah, on noue un contact presque intime avec eux, et c'est drôle parce que voilà, ils nous interpellent, nous aussi, on les voit, on leur serre la main, on leur fait la bise parfois, bon, pas cette année, c'est sûr. C'est très très sympa, quoi. C'est vraiment bizarre parce que c'est gigantesque à la fois et en même temps, on a quand même de l'humain qui est au cœur de tout ça, quoi.
Merci beaucoup François Belet, je rappelle que vous êtes speaker au Tour de France.
Vous retrouverez la voix du Bressan François Belet à l'arrivée du Tour à Champagnole en fin d'après-midi sur France Télévisions. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio B 90 FM ou sur notre site radio-b.fr. Alors peut-être que vous nous avez perdu quelques minutes, vous inquiétez pas, on est bien là avec vous et on a un nouvel invité en face de nous, Inès.
Gilles Bouvard nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Alors Ruth, vous allez présenter Gilles Bouvard.
Né à Bourg-en-Bresse le 30 avril 1969, Gilles Bouvard a été durant 11 années coureur cycliste professionnel. Équipier de grands champions tels André Hitchmill, Rick Verbrugge, Laurent Brochard, le dernier champion du monde français et bien d'autres. Vainqueur d'étapes, entre autres, sur le Dauphiné et le Tour du Limousin où il a souvent brillé sur les terres natales de Raymond Poulidor. On n'oubliera pas non plus son final sur les Champs-Élysées où il a tutoyé la victoire lors de l'ultime étape du Tour, mettant ses nombreux supporters en transe. À la fin de sa carrière, une épreuve cycliste, test chronométré, fut baptisée de son nom, ses attaches étant fortes du côté de Saint-Jean-d'Étreux. Nous retrouvons Gilles Bouvard aux côtés d'Audrey et Inès.
Merci, merci Alain Ruth pour cette présentation. Alors comme vous l'entendez, les hélicos sont là, le départ est dans presque 10 minutes maintenant. Gilles Bouvard, un tour à huis clos sans public, qu'est-ce que ça change pour un coureur?
Bah, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à cette situation, parce que moi j'ai toujours été habitué à avoir beaucoup beaucoup de monde. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui ça fait un petit peu triste, mais bon, le problème c'est qu'il faut vivre avec tout ce qu'on a eu cette année. Et puis voilà, bon ben... Bah, déjà, le plus important, c'est que le tour ait eu lieu. Voilà.
et quel est le rôle du spectateur pour un cycliste? Des fois on voit que ça les embête, ça les gêne ces spectateurs dans les montées, des fois ça vous encourage aussi. Comment vous le ressentez vous, avoir tout ce public autour de vous?
Moi personnellement, il est vrai que le public, pour moi, ça m'apporte énormément, beaucoup d'encouragement. Et puis c'est vrai que par moments, moi je me souviens quand on est monté l'Alpe d'Huez, un couloir devant nous, il y avait juste un petit couloir. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a toujours peur que les gens traversent la route, vous voyez, que ça nous crée un accident. Mais c'est vrai que c'est toujours encourageant, ça fait plaisir.
Est-ce que vous avez une anecdote avec quelqu'un du public, quelqu'un qui vous a encouragé ou justement qui vous a gêné lors de vos tours de France?
Non, pas spécialement. Non. Les gens sont quand même assez raisonnables. Ça dépend sur des arrivées d'étapes en haute montagne. C'est vrai qu'ils nous gênent un petit peu, mais dans l'ensemble, ça va. C'est assez raisonnable.
Gilles Bouvard, qu'est-ce qu'on ressent au départ d'une étape? Là, ils vont partir dans une dizaine de minutes.
C'est des frissons, toujours. Des frissons. Et puis, c'est quand même le tour, c'est quand même quelque chose.
Est-ce que vous, aujourd'hui, vous faites plus le Tour de France, mais comment vous le vivez quand il y a un Tour de France? Est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous allez sur place? Comment ça se passe?
Moi, je le vis avec la télé, bien sûr, parce que moi, je travaille, j'ai une entreprise, donc j'ai très peu de temps à moi. Mais c'est vrai qu'on aimerait être acteur, vous voyez, parce que on a un petit peu la nostalgie. On dit, tiens, j'aimerais bien être là, voilà, mais bon. Voilà, maintenant, chacun son tour.
Vous parlez à la télé, vous dites avance, va plus vite.
Oui, on donne des commentaires, bien sûr. Pourquoi il fait ça, ainsi de suite. Après, on a un vécu derrière, on a une expérience. Et puis, c'est vrai que beaucoup de coureurs, certains coureurs font des erreurs. Après, nous, on ne peut rien faire. On est juste derrière notre télé.
Donc, est-ce que vous avez un départ qui vous aurait marqué dans votre carrière?
On va dire mon premier Tour de France à Brest. C'était en 1995. J'avais vraiment des frissons quand j'ai pris le départ du contre. C'était un contre-la-montre, je me souviens. Et à un moment donné, je ne savais plus comment pédaler parce qu'il y avait tellement de bruit, vous voyez. Puis c'était le Tour de France. C'était vraiment. Il y avait beaucoup d'émotions.
Donc en fait, c'est presque un entraînement de faire une compétition publique comme ça, avec autant de bruit, ça vous déconcentre en fait, faut s'entraîner à ça.
Oui, c'est vrai que les premières années, oui, mais après on y prend plus vraiment attention. Après, c'est le tour, et puis on sait que le tour c'est dur, tous les jours c'est des étapes galères, et ça roule très vite, c'est très nerveux, donc il faut faire tout le temps attention.
Et comment ça s'est passé en amont, avant une étape, comment ça se passe le quotidien d'un cycliste sur le tour en fait?
Après, vous savez, vous finissez l'étape le soir, il y a un massage, vous allez manger, et puis après, dodo. Le lendemain, il faut se lever de bonne heure, parce qu'il y a des fois, les étapes sont très tôt, ou des fois très tard. Et après, il y a toute la préparation, la logistique, ainsi de suite. Et puis après, il y a la réunion avant le départ, du directeur sportif, pour donner des ordres pour l'étape.
En termes d'horaire, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez quand on est sur le Tour de France?
Après, ça dépend des étapes, d'étapes de montagne où des fois on se couche très tard parce que les arrivées sont tard. Il y a des coureurs qui sont invités. Il y a aussi les contrôles antidopage, bien sûr, donc ça prend beaucoup de temps. Après, il y a les transferts pour aller à l'hôtel. Bien souvent, c'est pas avant 23h, minuit. Et le matin, 7h30, 8h, le réveil.
Est-ce qu'on arrive à dormir? Il y a toujours l'excitation. On sait, après, quand on a un événement, quelque chose, la veille, on a du mal à dormir. Là, il faut être en forme tous les jours pendant le Tour de France.
Au début, oui, on a l'excitation, bien sûr. Mais après, plus les jours passent, plus il y a la fatigue. Vous voyez? Donc, on manque toujours un peu de sommeil. Et puis, le soir, on s'endort assez vite, quand même. Voilà.
Et justement, 21 jours de course cycliste, comment commencer? Est-ce que c'est beaucoup de souffrance, on imagine?
Oui, c'est de la souffrance, bien sûr. Et puis on se dit qu'il y a les Champs-Élysées à la fin. Les deux premières semaines se passent relativement bien, c'est très nerveux. Puis vous avez l'excitation, vous expliquais tout à l'heure. Et puis la dernière semaine, c'est la plus dure. Oui, parce qu'on se rapproche des champs, de la fin. Et puis on a toujours deux ou trois jours de très dur. Et puis après, ben, les deux derniers jours, ça se passe bien. Mais bon, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bon, on est quand même préparé. On fait quand même des programmes avant le tour, des gros programmes d'entraînement. On fait beaucoup de courses à étapes, des courses de 10-12 jours. Donc on a une préparation quand même assez intense. Donc on arrive sur le tour avec quand même des très très bonnes conditions.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive pour la première fois aux Champs-Élysées ?
Ce qu'on ressent, c'est déjà quand vous arrivez sur les champs, vous imaginez, vous avez les champs pour vous, hein, parce que ça nous arrive jamais ça, hein, dans une vie. Et puis on se dit que c'est fini, voilà, on a l'impression d'être un héros, voilà.
On se dit, je l'ai fait.
Je l'ai fait, voilà.
Pour vous, c'était quoi l'objectif quand vous avez fait votre premier Tour de France ?
L'objectif, c'était toujours de se dire, essayer de rentrer dans les 20-30 premiers. Vous voyez, c'est toujours ces objectifs. Et puis après, quand vous êtes dans certaines équipes, vous avez un leader, vous avez un rôle d'équipier. Donc il faut faire le travail, il faut aller chercher les bidons, il faut leur monter devant. Si bon, il crève, il faut le dépanner, il faut lui passer nos trous. Mais autrement, on a quand même nos chances. On a des étapes où on peut échapper devant, essayer de gagner une étape. Mais sur le tour, ce serait très difficile parce que vous avez 180 coureurs et ils veulent tous gagner une étape. Donc vous voyez, c'est pas facile.
Et est-ce que vous avez gagné une étape, vous avez un souvenir ?
Non, j'ai fait dans les 9-10 des étapes, mais j'ai jamais gagné d'étape, ouais. Jamais. Mais j'aurais bien aimé, mais bon.
C'est pas facile.
Et quelles sont les relations avec les autres coureurs ? Il y a ceux de l'équipe, mais avec les autres équipes ?
Ça se passe relativement bien parce qu'on se connaît tous, parce qu'on est toute l'année ensemble, faut pas oublier, il n'y a pas que le tour. Donc dans l'ensemble tout se passe bien. Bon, après il y a toujours certains coureurs qui ont des caractères, mais bon, dans l'ensemble ça se passe vraiment bien.
Il y en a qui sont restés des amis ?
On se côtoie très peu parce que après, vous savez, quand vous arrêtez, vous avez une deuxième vie qui commence. Hein. Mais bon, ça ne nous empêche pas, quand on se retrouve, d'échanger des trucs ensemble et puis d'aller boire un coup ensemble aussi.
Quand vous avez fait votre dernier Tour de France, est-ce que vous saviez que c'était le dernier justement ?
Oui, c'était le dernier parce que j'arrivais sur 35 ans et puis j'avais plus les performances que j'avais auparavant. Et puis je l'ai fini. J'étais pas super bien. En plus, j'étais dans une période où j'avais chuté avant le tour, je m'étais fait opérer et je ne l'ai pas attaqué dans les bonnes conditions. Donc, je ne suis pas resté sur une bonne image. Voilà.
Est-ce qu'après, vous avez refait, pour votre plaisir, un Tour de France ? Vous avez repris le vélo et vous avez refait des étapes, des choses comme ça ?
Non, pas du tout. Non, j'ai arrêté pendant 6-7 ans le vélo. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Et puis après, je me suis remis au vélo. Juste pour m'entraîner, avec les copains, mais sans ambition. Voilà.
Mais il y a ce besoin justement de couper un moment avec le vélo ?
Oui, parce que il faut savoir quand même que quand vous faites du vélo pour passer professionnel, il faut faire ses preuves avant, il faut être amateur. Donc vous commencez depuis cadet, junior, senior, c'est des sacrifices, vous n'avez pas le droit de sortir, comme tous les copains. On a une diététique qui est irréprochable. Et il est vrai que quand on arrête notre carrière, on a envie de voir autre chose. On découvre un peu la vie.
Dans 3 minutes maintenant, moins de 3 minutes, c'est le départ fictif qui se fera donc vers le monastère de Brou. On vous rappelle le trajet de ce Tour de France, il passera au boulevard de Brou, boulevard Saint-Nicolas, avenue Amédée Mercier, allée Alphonse Daudet. Il rejoindra par la rue des Dîmes l'avenue de Jasseron. Ils iront à Jasseron ensuite. Donc vous pouvez vous placer à cet endroit, à ces endroits, pour encourager les coureurs qui vont pas tarder. Dans l'un, on a deux coureurs, donc c'est Pierre-Luc Périchon et Geoffrey Soupe. On vous en parlera juste après le départ fictif. On va attendre que les coureurs passent devant nous. Peut-être quelques mots, Gilles Bouvard, sur ces deux athlètes, ces deux cyclistes. Est-ce que vous les connaissez un peu ? Est-ce que vous les avez côtoyés ?
J'en connais un parce que, comme disait Alain, moi j'organise une course qui s'appelait la Gilles Bouvard et en fait c'était un contre-la-montre de 10 km et en fait j'ai remis une coupe à Geoffrey Soupe. Voilà, je l'ai connu comme ça. Un très bon coureur, voilà, très bon équipier.
Alors on aperçoit la montgolfière floquée du département, donc qui survole les horizons, et puis donc, le public qui arrive, qui est de nouveau venu au bord du boulevard de Brou avec les drapeaux ici, c'est là qu'on va pouvoir voir tout au long du parcours et qu'on a pu voir aussi lors de l'étape le week-end dernier au Grand Colombier. Donc maintenant dans une minute, le départ fictif du Tour de France, de cette 19e étape qui part de Bourg-en-Bresse pour relier Champagnole dans le Jura.
Et donc tout le monde est masqué, on voit le public est bien masqué, les gens essaient de se répartir tout au long du chemin pour respecter les mesures barrières qui sont donc recommandées. On rappelle le profil de cette 19e étape, donc c'est 166 km entre Bourg-en-Bresse et Champagnole dans le Jura. Donc le tour va passer, les cyclistes vont passer à Bourg-en-Bresse forcément, Chavannes-sur-Suran, Saint-Julien-sur-Suran, Crécia, Lons-le-Saunier, Côte de Château-Chalon, Mournant, Bief des Maisons, Loule pour une arrivée à Champagnole, donc en fin d'après-midi. Donc peut-être quelques mots, Gilles Bouvard, est-ce que vous connaissez un peu cette étape, le profil de cette étape, c'est quoi en quelques mots?
Ben, en fait aujourd'hui c'est plus une étape pour des baroudeurs. Voilà, c'est de la moyenne montagne, mais très cassant. Vous voyez, on est tout le temps en prise. Mais je verrais bien un baroudeur gagner cette étape.
Comme qui?
Ben, je verrais peut-être un Julien Alaphilippe, peut-être, pourquoi pas.
Alain Rude, vous êtes toujours avec nous, Alain. Est-ce que vous avez un pronostic?
Ah, c'est compliqué un pronostic.
Pour l'étape, hein, juste pour l'étape.
Non, mais pour l'étape, c'est le cœur. C'est Geoffrey Soupe ou Pierre-Luc Perrichon, évidemment, nos deux coureurs de l'Ain. On les a connus tout petits, donc ça serait vraiment formidable qu'une échappée se forme. Et l'un comme l'autre sont rapides. Donc en cas d'arrivée d'un petit groupe, que ce soit Geoffrey, que ce soit Pierre-Luc, ça serait vraiment formidable. Je crois qu'on est nombreux ici à le souhaiter. Mais je verrais bien également Wout van Aert aussi, puisque Wout van Aert, nous on a un noyau ici, on a des jeunes.
Attention Alain, je vous coupe, c'est le départ. Les cyclistes sont partis et vont passer devant nous dans quelques secondes, devant le Monastère Royal de Brou. Ils avancent tranquillement parce que c'est un départ fictif. On le rappelle, le vrai départ sera route de Jasseron, avenue de Jasseron. Ah, ils sont là.
Oui, ça y est, ils passent devant nous, les premiers coureurs.
Ils sont précédés par un motard, une voiture.
Les gens qui commencent à applaudir.
Avec les drapeaux, ici c'est l'un. Les caméras sont là.
L'hélicoptère et puis les voitures derrière, des équipes qui passent avec les vélos sur le toit.
En cas de problème.
Ça y est, l'hélicoptère est vraiment juste au-dessus de nous, donc il faut forcer un petit peu. Ah, on a la France Télévisions devant les yeux, on voit qu'ils sont en train de filmer le Monastère Royal de Brou. Donc on vous rappelle qu'on est en direct installé au pied du Monastère de Brou.
Ces images sont diffusées quand même dans 180 pays, on le rappelle, par 100 chaînes différentes. Donc 180 pays qui voient le Monastère Royal de Brou quand même, c'est pas rien.
C'est pas rien. Et puis de voir surtout les coureurs passer devant le monastère, donc par rapport à l'étape donc au départ de 2016, hein, qui s'était fait aussi à Bourg-en-Bresse. Mais les coureurs étaient partis de l'autre côté, à l'arrière du monastère de Brou, donc de l'avenue Général de Gaulle.
Qui était bien dommage quand même. Peut-être Alain, dites-nous un peu plus sur tout ce qui est maillot jaune. D'où vient le maillot jaune, par exemple?
Alors, on retrouve Gilles Bouvard. Parce qu'on...
Gilles Bouvard était parti jeter un œil sur les cyclistes.
Comme ça, il va pouvoir, avant que Alain nous parle du maillot jaune, on va pouvoir avoir des petites réactions de Gilles Bouvard. Si vous voulez bien nous dire un petit peu ce moment que vous avez vécu en direct. Vous avez vu passer les coureurs, racontez-nous.
C'est beaucoup d'émotions, des souvenirs. C'est vrai qu'une petite larme à l'œil. Ça manque.
Je vous assure que moi aussi, j'avais les frissons de les voir passer devant.
Ouais.
Ça fait quelque chose, ouais.
Oui, beaucoup. Et bon, il est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus vraiment d'amis. Bon, ils sont tous. Maintenant, ça fait 16 ans que j'ai arrêté. Il n'y a plus personne que je connais maintenant dans le peloton. Ça a changé.
Donc, maintenant, on va revenir donc sur les personnes qui sont dans le peloton. Peut-être que vous allez connaître plus de choses sur ceux qui sont dans le peloton. C'est les deux coureurs indinois qu'on a cités tout à l'heure. Donc Alain, vous avez bien travaillé, vous avez fait un peu leur biographie. Vous allez nous les présenter, Pierre-Luc Perrichon et Geoffrey Soupe.
Oui, en effet, deux coureurs de l'Ain participent à cette 107e édition du Tour de France. Pierre-Luc Perrichon, Dossard 127, est né le 4 janvier 1987 à Bourg-en-Bresse. Formé à l'école du Vélo Club d'Ambérieux, il est passé par Saint-Vulbas Vélosport avant de rejoindre le SCO Dijon, qui lui a permis d'intégrer le peloton professionnel à l'aube de 2012. Dès sa première saison, Pierre-Luc s'impose lors de la classique Paris-Camembert. En 2018, il inscrit son nom au palmarès d'un autre monument du calendrier cycliste hexagonal, la Polynormande. Au fil des saisons, Pierre-Luc, garçon posé et réfléchi, apprend et se mue en capitaine de route, un peu un grand frère, et est aujourd'hui indispensable au sein du Team Cofidis, où Guillaume Martin profite de sa protection et de son expérience. Pierre-Luc Perrichon participe actuellement à son 5e Tour de France.
Et Geoffrey Soupe maintenant.
Né le 22 mars 1988, Geoffrey Soupe, Dossard 187, a débuté à l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse avant de passer par le Vélo Club Bressan puis le Vélo Club Vaux-en-Velin. Poursuivant sa progression, il rejoint le club cycliste Etup, marche-pied pour gagner sa place au sein du peloton des coureurs professionnels. Geoffrey débutait au plus haut niveau dès janvier 2011 et marquait les esprits. Première course et première victoire lors de la première étape de la Tropicale Amissa Bongo, course organisée au Gabon. Dès l'année suivante, il se distingua au Tour d'Italie lors de la deuxième étape, se classant troisième du sprint massif du peloton, derrière Cavendish et Goss, les meilleurs spécialistes de l'époque. Ensuite, Geoffrey évolua au poste de poisson pilote, d'abord au service de Nasser Bouani et maintenant au bénéfice de Nicolo Bonifazio. Geoffrey Soupe participe actuellement à son 3e Tour de France.
Merci Alain. Quelques mots aussi sur leur performance outre cyclisme pur.
Voilà, c'est important. Et tous deux ont à leur début, et ça leur a servi par la suite, briller dans d'autres activités cyclistes que la route. Pierre-Luc Perrichon remporta de nombreux titres régionaux sur piste, en cadet et junior. Il fut titré également au niveau national, tant chez les cadets que chez les juniors. Et on ne compte plus ses innombrables places sur les podiums. De plus, il s'essaya aussi au cyclocross avec succès. Geoffrey Soupe fut vice-champion Rhône-Alpes de cyclocross cadet, 12e de championnat de France et régulièrement sélectionné en équipe nationale, cadet et junior. Il a participé à de nombreuses manches de la Coupe de France de cyclocross dans les différentes catégories jeunes, réalisant de belles prestations. Le cyclocross et la piste sont deux belles écoles qui ont sans doute favorisé leur accession au plus haut niveau du cyclisme.
Merci Alain Rude. Donc on voit dans les images que nos cyclistes traversent la ville de Bourg, qui rejoignent l'avenue de Jasseron pour le départ réel qui est dans 10 minutes à 13h45. Pour l'heure, on va écouter Geoffrey Soupe de l'équipe Total Direct Energy. Nous l'avions rencontré pour son dernier entraînement avant le départ sur la grande boucle.
Aujourd'hui, on rejoint Geoffrey Soupe pour son entraînement.
Donc là, on est à Jasseron, voilà, c'est là où je réside. Et voilà, je pars aujourd'hui, comme la plupart du temps, d'ici pour mes entraînements. L'arrivée sera en haut du Mont-Julie. Voilà.
Et donc aujourd'hui, c'est quoi le programme, le circuit ?
Aujourd'hui, ça sera un programme de deux heures environ, avec une bonne partie dans le Revermont, pour retrouver un peu de plaisir sur ces belles routes. C'est les derniers entraînements avant le Tour de France, donc c'est quand même assez light. Le travail est fait déjà depuis un petit moment, donc c'est simplement de l'entretien et puis retrouver un coup de pédale assez fluide en essayant d'éliminer toutes les dernières toxines pour être le plus léger possible.
À tout à l'heure.
Allez, à tout à l'heure.
Alors comment ça s'est passé cette petite course ?
Ça s'est bien passé, un bon entraînement bien sympa. Je suis allé sur Tréfort pour aller monter la montée des S de Tréfort, on appelle ça comme ça ici. Et puis ensuite sur Chavannes-sur-Suran pour aller monter la côte d'Arnan pour descendre direction Corvessia, Cise. Puis voilà l'arrivée sur le Mont-Julie.
À 4 jours du tour, comment vous vous sentez ?
Moi je me sens bien, je me sens vraiment partant pour cette grande aventure. C'est parce que c'en est une. Et pressé d'y être. C'est quand même un événement hyper festif, intense certes, mais hyper festif, et tout le monde a envie d'y être. C'est quand même une belle vitrine pour nous. Donc ouais, j'ai beaucoup d'attentes et beaucoup d'envie.
Et donc comment on fait pour tenir presque un mois de compétition comme ça avec tous les jours des grosses courses?
Bah, c'est une pression en fait qu'on maintient au quotidien. Il ne faut pas lâcher, que ce soit voilà, on est massé tous les jours, on a des repas qui sont bien spécifiques voilà, aussi. Toute la récupération qui est mise autour est hyper, hyper importante. Et après c'est une pression aussi nous qu'on va se mettre pour maintenir voilà, le corps en fonction, le corps bien en phase avec soi. Et puis c'est bien boire, bien s'étirer aussi. Pour garder le muscle voilà, le plus souple possible au jour le jour, parce que forcément oui, les jours de course qui s'accumulent, on commence à avoir aussi des raideurs, des contractures. Si on s'hydrate mal, si on s'étire mal, forcément à un moment donné il y a forcément une étape où ça va coincer.
Et donc là, quels sont vos objectifs pour ce tour, vos objectifs personnels?
C'est limité pour des coureurs de notre type, parce que voilà, c'est pas nous qui allons faire la course, qui allons dans les premiers rôles en tout cas sur les parties très montagneuses. Après on sait qu'on a 4-5 étapes en gros, hein, maximum 4-5 étapes sur le tour où on peut faire une belle échappée, on peut briller, on sait qu'il y aura des ouvertures. Et c'est justement ces ouvertures-là qu'il ne faudra pas louper. Donc ça sera aussi gérer son tour du mieux possible, c'est-à-dire essayer de voilà, des étapes où il n'y a rien à jouer. Bon, ça reste dur, il faut les faire, les étapes de montagne, mais essayer d'éviter de mettre trop d'investissement et puis de finir trop râpé, on va dire, la journée, pour que le lendemain on ait un minimum de force pour, voilà, pour prendre une échappée si on doit la prendre. Voilà, l'objectif, ça sera d'essayer de briller sur une étape ou plusieurs, hein, bien évidemment, mais on sait qu'elles seront comptées. Donc c'est le gros objectif finalement, hein. on n'a pas d'ambition sur le classement général. Justement, on va éviter de s'y concentrer, c'est trop d'énergie pour être dans les 10 premiers du tour. Donc là où on va se concentrer, c'est vraiment cette une victoire d'étape, une magnifique prestation sur une étape où il y aura une échappée.
Donc là on va assister à une étape à Bourg-en-Bresse, donc départ de Bourg-en-Bresse. Est-ce que vous allez avoir une petite pensée pour les Bressans?
Oui, carrément, j'ai hâte d'y être, j'espère aussi y être tout simplement, parce que rien n'a fait d'avance. Je pense que ça va me faire du bien. C'est pour tout le monde, c'est pareil, hein, de retrouver un peu ses routes d'entraînement. Ça fait du bien, ça redonne un peu d'envie, ça redonne de l'espoir. Et ouais, espérer aussi surtout, pourquoi pas briller, notamment sur l'étape Bourg-Champagnole. Alors ça, c'est les genres d'étapes qui sont intermédiaires, où les leaders n'ont pas forcément envie ou besoin de chercher du temps sur le classement général. Donc ça sera peut-être certainement une ouverture pour nous.
Bon courage.
Ouais, merci.
Et oui, on souhaite bon courage à Geoffrey Soupe qui pédale en ce moment vers la route de Jasseron. Geoffrey Soupe qui habite Jasseron d'ailleurs, il va passer vers chez lui, il connaît bien ses routes. On lui souhaite beaucoup de chance pour qu'il ait une belle place sur cette étape. Donc on retrouve nos invités Gilles Bouvard, Alain Rude. Donc peut-être à Gilles Bouvard une petite réaction après ce reportage sur l'entraînement donc de Geoffrey Soupe, coureur indinois qui est aujourd'hui sur le tour.
Oui, bah effectivement, par rapport à ce qu'il a dit, ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, c'est une préparation le tour, hein, parce que ça dure, comme je l'ai dit, il y a 21 étapes, c'est dur, et puis il faut se préparer psychologiquement, voilà, c'est tout un ensemble de choses.
C'est vrai qu'on pense à l'entraînement donc du cycliste, mais psychologiquement, comment vous êtes préparé à vivre un Tour de France ?
Ben déjà, il faut déjà se sélectionner pour le Tour, parce que ce qu'il faut savoir dans une équipe, vous avez entre 25 et 30 coureurs, et on n'en prend que 8, hein, voyez ? Donc il faut faire partie des meilleurs.
Donc, comment on se démarque de l'équipe ? C'est des compétitions ?
Ben en fait, oui, c'est des compétitions. Il y a une sélection dans l'équipe. Donc vous faites des courses à étapes, et puis ben, les directeurs sportifs regardent votre comportement, voilà, et puis les résultats, surtout les résultats. Et par rapport à ça, ben, vous êtes sélectionné ou pas pour le tour. Voilà.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que vous étiez sélectionné pour le tour ?
Ah, c'était une joie, parce que étant gamin, je loupais pas une étape, et je me dis un jour je ferai le Tour de France, mais sans y croire vraiment. Et puis le jour que ça vous arrive, c'est une explosion de joie, c'est vraiment intense.
On vous l'apprend comment ?
Ben, souvent, on vous la prend une semaine avant, parce que, comme vous expliquez...
Une semaine avant le tour ?
Ouais, toujours. Donc, on vous met une pression. Vous avez une vingtaine de coureurs, on met une pression. Et après, le directeur sportif, ben, il fait un choix. Dire, ben, lui, on va le prendre parce que bon, c'est un bon grimpeur. On a besoin d'équipiers pour emmener le leader. Et puis voilà quoi. Donc, mais bon, c'est une semaine avant, donc bah moi, ça m'est déjà arrivé de pourtant être bien et puis pas être sélectionné. Voilà. Donc on se fait on s'imagine qu'on va faire le tour et puis ben on n'est pas sélectionné. Alors c'est la pire des choses qui peut nous arriver dans une vie.
Et comment on repart après une telle décision ? Il faut se remotiver d'une certaine manière ?
Ben après, il n'y a pas que le Tour, il ne faut pas oublier. Il y a le Tour d'Espagne, il y a plein d'autres courses. Il y a des courses à étapes où ben, on peut s'affirmer. Voilà, on peut faire et puis prouver qu'on avait notre place. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire le Tour et puis de leur dire, ben, attendez, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Et puis voilà, on le prouve sur le vélo. Le mieux, c'est comme ça.
Et au-delà du Tour de France, c'était quoi la course dans laquelle vous preniez le plus de plaisir ?
Dauphiné libéré, Paris-Nice, c'est des courses où je brillais pas mal. Bon, j'ai gagné une étape et puis j'étais souvent dans le top 10. Voilà. C'est des courses qui me plaisaient bien.
Donc sur l'écran, on voit que le rythme s'accélère du côté des cyclistes. À mon avis, le départ officiel est lancé. Ça commence déjà à se détacher du peloton. Donc pour un petit résumé, Roglic toujours en tête du classement général. Du côté de nos Indidois, on a Pierre-Luc Perrichon 88e, donc Pierre-Luc Perrichon qui est avec l'équipe Cofidis, et Geoffrey Soupe avec l'équipe Total Direct Energy qui est 126e. Gilles Bouvard, un petit commentaire sur nos athlètes indinois, c'est quoi ces places, est-ce que c'est bien placé, comment ça marche un classement en fait?
Bah le classement, déjà il faut courir devant. Si vous voulez faire un résultat, il faut courir devant et aller dans les échappées. Après il y a c'est simple. Hein. Mais bon, c'est pas toujours évident. Vous savez, quand vous emmagasinez plusieurs jours de course, vous avez mal aux jambes. C'est pas toujours facile. Il y a des jours où vous n'êtes pas bien, mais donc vous restez dans le peloton.
Là, vous voyez les images. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ben, là, en fait, ce qui se passe, c'est que ben, là, le départ a été donné. Donc, y a des coureurs qui sont loin en général, qui veulent gagner une étape. Donc, ils essaient de s'échapper et puis essayer de faire un petit groupe de 10, 15, 20 coureurs. Voilà, puis qui prennent 5, 10 minutes pour aller jusqu'au bout.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept du peloton, notamment au niveau du vent, comment ça marche tout ça ?
Bah après, tout dépend du sens du vent. Quand c'est un vent de face, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais quand c'est un vent de trois quarts face, après, ça fait des éventails, ça fait des cassures. Et puis, aussi, ce qu'il faut regarder, c'est là, on peut le voir, là, il y a quand même pas mal de végétation, donc il n'y a pas de risque de bordure. Quand tout est dégagé, là, par contre, ça devient dangereux. Mais là, apparemment, non. Puis c'est montagneux, donc pour faire une bordure ici, c'est très compliqué.
Une bordure, vous pouvez expliquer ?
Bah, c'est les coureurs l'un derrière l'autre, et voilà quoi. Et puis y a le vent trois quarts côté. Et puis à un moment donné, le dernier coureur se retrouve dans le bas côté, donc obligé de s'écarter, faire une deuxième éventail. Voilà, c'est un peu ça.
C'est toute une danse finalement.
Ah oui, oui, absolument.
Est-ce que. Oui, ben.
Gilles Bouvard. Il fait encore très chaud pour ce mois de septembre. Comment on gère la chaleur pendant le Tour de France ?
Surtout, il faut bien boire pour ne pas se déshydrater. Et puis mettre une casquette sur la tête, bien sûr, bien se protéger. Et puis par moment aussi, prendre une éponge puis se la mettre derrière le cou pour éviter les coups de... Voilà, comme je vous dis, le corps est habitué. On est habitué à rouler sur des hautes chaleurs, des grosses chaleurs. Voilà, mais surtout bien boire.
Peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous aimez le plus dans le Tour de France, dans cet événement ?
C'est les arrivées en montagne, c'est là où il y a un peu plus de suspense. Que les étapes plates, c'est pas vraiment très intéressant. Bon, après, c'est toujours pareil, ils laissent partir un groupe devant. Et puis, à les 10 derniers kilomètres, il y a des grosses équipes de sprinteurs qui mettent en route. Et puis, puis après, ça arrive au sprint, mais le mieux, c'est les étapes de montagne. Voilà.
Merci Gilles Bouvard. Alain Rude, peut-être quelques anecdotes avant de laisser l'antenne. Pourquoi le maillot jaune est jaune, Alain ?
Vous allez répondre que le choix s'est porté sur la couleur du papier sur lequel est imprimé le journal Lotto, organisateur du Tour. Vérité ou légende ? Un doute m'habite. Né à la lecture d'une archive de 1969 dans laquelle Eugène Christophe, le premier porteur de la fameuse tunique en 1919, destinée à distinguer le leader du Tour, raconte son souvenir de l'événement. 50 ans après, Eugène Christophe relatait que pour permettre aux spectateurs de reconnaître le leader, on pensa qu'il serait bien d'attribuer un maillot distinctif et surtout qu'il soit très visible pour le public, de plus en plus nombreux au fil des ans. Le jaune, couleur très lumineuse et qui n'était porté par aucun coureur, fut adopté. Si à cette époque, selon Eugène Christophe, les coureurs avaient porté un maillot avec du jaune, il n'aurait pas été possible de leur faire changer et le jaune n'aurait pas été adopté. Aussi, c'est l'absence dans le peloton d'un maillot jaune qui a contribué à en faire en 1919 la couleur distinctive du leader du Tour de France. Alors, quelle est la bonne version ? Personnellement, je pense pour celle d'Eugène Christophe.
Et pourquoi le maillot vert est-il vert, Alain ?
Ben, le maillot vert, en 1953, à l'occasion du cinquantenaire de la naissance du Tour, les organisateurs décident d'attribuer un maillot distinctif au meilleur sprinter. L'enseigne de magasin de vêtements La Belle Jardinière est son premier sponsor. La couleur verte est choisie pour ce maillot parce qu'elle était la plus utilisée dans les publicités. On disait les réclames à l'époque, vantant l'enseigne.
Et peut-être le maillot à pois, pourquoi il est à pois ?
Eh ben, le maillot à pois, il est à pois parce que c'est sur une idée de... Le meilleur grimpeur, ça existe depuis 1933, mais le premier maillot, c'est en 1975. C'est l'année que Thévenet avait gagné au champ. Et il est à pois parce que Félix Lévitan, qui était co-directeur du Tour de France avec Jacques Godet, donc avait un souvenir de jeunesse d'un coureur qui s'appelait Lemoine, dont le prénom m'échappe, qui était un pistard très brillant. Je ne sais pas si Gilles peut m'aider. Il s'appelait Lemoine, il était pistard très très brillant.
De nom, mais...
Enfin, peu importe son prénom après tout, parce qu'il a sûrement plus mal aux dents. Et donc, il évoluait sur piste avec un maillot de cette couleur, un maillot blanc avec des pois rouges. Et Félix Lévitan s'était dit, tiens, ça va flasher, quoi.
Merci Alain Ruth pour ces petites anecdotes et ces explications. Je rappelle que vous animez l'émission Le Nez dans le Guidon sur Radio B. Merci aussi Gilles Bouvard, ancien cycliste professionnel. Donc on vous laisse avec Radio Cyclo Tour. Là on voit que les cyclistes sont au moins sur l'avenue de Jasseron, peut-être plus loin. Donc ils sont partis pour leur étape qui se terminera à Champagnole dans le Jura.
Le départ donc a été pris donc de Bourg-en-Bresse et donc ils sont en train de rejoindre Champagnole. Donc pour nous, c'est le moment, comme vient de le dire Inès, de rendre l'antenne et de la passer à nos confrères de la web radio Cyclotour qui va suivre l'étape dans sa totalité.
Merci à eux pour le studio, pour leur accueil. Merci à la mairie de Bourg-en-Bresse pour l'emplacement. Merci à nos invités d'être venus. Et merci aussi aux bénévoles Rémi, Alain, mais aussi Alexandre qui est en régie à Radio B. À nos deux techniciens, Jean-Gabriel Delpuech et Pauline Bussy. Et cette dernière nous quitte aujourd'hui pour de nouvelles aventures. On te dit bonne route, Pauline.
Bon week-end à toutes et à tous avec Radio B 90 FM.
Vous écoutez Radio B 90 FM.
Yeah.
Les bonnes ondes.